Voilà donc pour l'essentiel des informations. Je vais donc maintenant présenter notre conférencier. Sa conférence s'inscrit dans un module qui est consacré au risque, société du risque et de l'extrême. Donc nous avons envisagé pas mal de formes de risques. Hier, par exemple, les risques informatiques. Aujourd'hui, nous allons avoir une leçon sur responsabilité, risque, précaution, pardon. Enfin, Gilles Martin sera plus précis, exact si je ne le suis pas. Gilles Martin est professeur de droit. Il est né en 1949. De formation et docteur d'État en droit en 1976, diplôme d'études approfondies de droit économique en 1977, diplôme d'études supérieures de droit privé en, c'était avant ça, excusez-moi, 1971. Il a fait sa carrière assistant à la faculté de droit de Nice, c'est pour ça que j'étais inquiet sur sa venue, parce que vous savez qu'il y a des grèves d'avions, assistant, puis maître de conférence, et il est actuellement professeur à la faculté de droit de Nice, Sophia Antipolis, où il est depuis 1987. Il dirige le DEA de droit économique et des affaires. Ses spécialités, ce sont le droit de l'environnement, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, le droit de la responsabilité des assurances, le droit des télécommunications et le droit des contrats. Depuis longtemps, nous l'avions identifié comme l'homme idoine pour venir nous parler de responsabilité, risque et précaution. Enfin, je ne sais pas dans quel ordre, mais je lui donne la parole pour 50 minutes et après il répondra à vos questions. Merci.
Merci infiniment pour cet accueil et permettez-moi tout d'abord de vous dire combien je suis heureux de participer à ce cycle de conférences, et je disais combien je suis honoré d'avoir été retenu parmi les quelques juristes qui sont intervenus jusqu'ici, donc jusqu'à la 296e séance, et qui interviendront encore. Il est vrai que le droit, et tout à l'heure vous avez prononcé le mot de réglementation, qui fait bien plus peur encore que le seul mot de droit, n'est pas de ceux qui attirent les foules en principe, et je suis tout surpris ce matin de voir dans cet amphithéâtre autant de monde pour entendre parler de ce sujet, responsabilité, risque et précaution. Les systèmes juridiques, du moins ceux qu'il nous est permis de connaître à peu près sérieusement, repose sur quatre piliers majeurs, certains disent cinq, je dirais quatre piliers majeurs et quelques menues colonnes. Au rang des piliers figure bien évidemment d'abord la personne juridique, avec sa capacité à être titulaire de droits et d'obligations. La propriété, deuxième pilier, socle du droit des biens. Le contrat, instrument privilégié, ô combien, des échanges. Enfin, la responsabilité juridique. Certains y ajoutent, mais je ne veux pas entrer dans le débat, l'État, l'organisation étatique, mais dont les spécialistes se demandent s'il est à l'intérieur du système juridique, à l'extérieur. Bref, je n'entre pas dans cette discussion. La responsabilité juridique, donc quatrième pilier des systèmes juridiques, c'est d'elle et des relations complexes qu'elle entretient avec d'autres concepts, le risque, la précaution, que je dois vous parler aujourd'hui. S'il est vrai, comme l'a d'ailleurs magistralement montré Madame Vinet dans une conférence précédente qui figure dans le volume 2 déjà paru, s'il est vrai que la responsabilité juridique n'acquiert sa place qu'assez tardivement dans nos sociétés, personne ne conteste aujourd'hui, qu'elle est une des clauses essentielles du contrat social. Celle par laquelle les hommes conviennent de traiter juridiquement les atteintes que certains d'entre eux, individuellement ou collectivement, subissent dans leurs biens, dans leur chair ou dans les valeurs qu'ils estiment devoir défendre. Quant au risque, il est au cœur des discours contemporains, il est le thème de cette session de conférence, il est au cœur des discours contemporains, mais le mot et le concept qu'il porte n'ont plus qu'une lointaine parenté avec celui du Moyen-Âge, qui servait à désigner les écueils susceptibles de compromettre une bonne navigation. C'est que, depuis le Moyen-Âge, les mathématiciens, avec le calcul des probabilités, les statisticiens et les sociologues, les assureurs, les spécialistes de Saint-Dinic, une façon d'échapper à la qualification de riskologue, s'en sont emparés, chargeant ce concept de sens nouveaux, parfois difficiles à articuler avec les significations anciennes. Responsabilité et risque ont évidemment, et depuis fort longtemps, des relations étroites et tumultueuses. Le second venant même servir de fondement depuis le XIXe siècle, à la première, à côté de la faute, c'est un débat que nous retrouverons, et parfois en concurrence avec elle. La précaution, enfin, troisième élément de ce triptyque, qui renvoie à la vertu de sagesse du bon père de famille, cher aux juristes, mais aussi parfois à la frilosité de l'homme précautionneux, un peu replié sur lui-même, et qui ressurgit au tournant de ce siècle sous les habits postmodernes du principe de précaution. Que n'a-t-on dit ou écrit, et je suppose que ceux qui suivent régulièrement les conférences ont déjà entendu parler de ce principe ici même, mais que n'a-t-on dit, et j'espère savamment, ici, car que n'a-t-on dit ou écrit au cours des 5 ou 10 dernières années sur ce désormais fameux principe, utilisé à tout propos, hors de propos, mis, si vous me permettez cette expression, à toutes les sauces politiques et médiatiques, il a fait naître aussi les plus vives controverses, et j'en ferai état tout à l'heure, entre les spécialistes de sciences sociales, économistes, sociologues, juristes. En leur sein, au sein de ces sciences sociales, les juristes ont rapidement pris conscience que le nouveau venu de la sphère internationale, où il a été installé par le monde anglo-saxon, pour faire court. Le nouveau venu était susceptible de redessiner une partie significative du système juridique et de redéfinir sans doute les contours du droit de la responsabilité. Mais que l'on ne s'y méprenne pas, le débat juridique dont il s'agit n'est pas l'un de ceux techniques et un peu froids qui permettent aux juristes de se sentir entre eux et qui fait tant pour la réputation ennuyeuse du droit. Non, le système juridique et en son sein le droit de la responsabilité sont Ici, simplement, le lieu, simplement, mais c'est très important, sont le lieu où vont s'exprimer le plus clairement les conceptions idéologiques au sens premier du terme, c'est-à-dire les représentations que les hommes se font de leur rapport aux dommages qui les frappent, et des réactions de solidarité, d'égoïsme, de répression parfois, de vengeance que ces dommages peuvent ou doivent susciter. Autrement dit, rapprocher ces trois termes, et dans ce sens, responsabilité, risque, précaution, dans leur acception juridique, c'est raconter l'histoire de la façon dont les hommes conçoivent leur fragilité face au péril qui les menace et dont ils conviennent d'y répondre. Pour que le propos ait un sens, il convient évidemment de le situer dans le temps et dans l'espace, au moins sommairement. Dans le temps, je ne raisonnerai que, si je puis dire, que sur la période qui va des premiers balbutiements de la société industrielle à nos jours. Dans l'espace, je limiterai l'analyse, je limiterai les références au droit de la famille romano-germanique et au droit de la common law, en privilégiant, et de beaucoup, par facilité, les références au droit français. Alors, ainsi délimité, le champ de l'observation autorise deux remarques principales. Et l'on reconnaît à cela aussi que je suis juriste. Il est bien connu que les juristes font toujours des plans en deux parties. En premier lieu, il est possible de montrer que la responsabilité juridique, d'abord ignorante du risque, a été ensuite enrichie par sa prise en compte, enrichie à tel point, oxygénée à tel point par le risque qu'elle en a été comme enivrée, perdant parfois ses repères et donnant ainsi prise à une critique au sens propre réactionnaire, je veux dire à une critique prônant le retour au prétendu âge d'or, celui de la faute classique. Cette situation n'est sans doute pas étrangère dans les années 80-90 à l'irruption. L'irruption, c'est le mot, du concept, du principe, de l'obligation. Ne nous arrêtons pas sur ce qui n'est pourtant pas un détail. L'apparition donc du concept, du principe, de l'obligation de précaution. Il conviendra alors en second lieu de s'interroger sur la question de savoir en quoi et jusqu'où aujourd'hui la référence à la précaution est venue renouveler et peut-être bousculer assez sérieusement cet édifice encore mal stabilisé qu'était devenu le droit du risque. Voilà le chemin que je vous propose de faire avec moi, une responsabilité enrichie par la référence au risque et puis un concept de précaution qui vient bousculer le droit du risque mal stabilisé. Le droit de la responsabilité a d'abord été enrichi par la prise en compte du risque. Pendant longtemps, le risque est demeuré, sinon hors du droit, je n'irai pas jusque-là, du moins cantonné dans ses marges. les juristes, le considéraient en lui reconnaissant seulement le statut du coup du sort, du destin, du fatum. Et le mot, d'ailleurs, jusque vers 1820, ne désigne que des événements dommageables de la nature. Le risque, c'est l'orage, la grêle, les inondations, les épizooties, les incendies. À l'exclusion des dommages qui pourraient provenir du fait de l'homme, écrit un certain Barrault, Barrault, c'est beau pour un juriste, en 1816, dans son traité des fléaux et des cas fortuits, alors qu'il propose l'institution d'un vaste système d'assurance. Le risque, dans cette acception, est alors seulement destructeur du rapport juridique, destructeur du lien juridique. Il interdit au lien d'imputabilité de se nouer. En d'autres termes, il exonère celui qu'une première approche aurait pu désigner comme le responsable du dommage. À dire vrai, le risque, dans cette acception, exclut le responsable parce qu'il exonère celui que l'on pouvait croire coupable. Une identité presque parfaite, et ce rapprochement a fait couler beaucoup d'encre, une identité presque parfaite entre le responsable et le coupable existante à cette époque. La responsabilité, qu'elle soit civile ou pénale, ne peut en effet être engagée que si une faute a été commise par un sujet identifié, ce que précisément dément le constat de l'intervention du risque. Dans sa forme la plus accomplie, le risque prend donc les traits juridiques de la force majeure, de la force majeure, événement imprévisible, extérieur à l'agent et à ce titre irrésistible. Le dommage qui en résulte, parce qu'il n'est imputable qu'à Dieu, au diable ou au mauvais sort, doit être supporté par la victime, qui est d'ailleurs présentée, non sans un certain cynisme, comme l'élu du sort. Dans ce schéma de pensée, il est tout au plus possible d'envisager que la charité se manifeste au profit de la victime, ou que se mette en place, mais dans un cadre informel, quelque solidarité familiale, quelque solidarité de proximité. Il ne peut être question, en revanche, d'organiser socialement, d'organiser juridiquement une prise en charge du risque et des dommages qui lui sont associés. Ce n'est donc finalement qu'avec l'essor de la société industrielle et avec la multiplication des dommages qui, pour certains, deviennent des dommages de masse, que l'on songe aux accidents du travail, j'y reviendrai. Ce n'est donc qu'avec l'essor de cette société industrielle, avec la multiplication de ces dommages, que va naître, puis se développer, une toute autre approche du risque. Et celle-ci, cette nouvelle approche, sera à l'origine d'un véritable bouleversement de la responsabilité juridique, bouleversement que nous sentons aujourd'hui encore, qui fait encore aujourd'hui débat, bouleversement de la responsabilité juridique et tout spécialement, mais pas seulement, pas exclusivement, de la responsabilité civile. Quelques juristes progressistes, Saleil, Josserand, pour la France, vont développer l'idée, qui est sans doute déjà présente, dans la doctrine allemande et qu'ils vont aller chercher dans la doctrine allemande, ils vont développer l'idée que parmi les prétendus coups du sort, tous ne méritent pas cette qualification. Et que, comme l'écrit François Ewald, autre intervenant des conférences, et que le risque n'est plus seulement dans la nature, il est dans l'homme, il est dans la société. À côté du fatum, à côté du coup du destin, à côté de l'événement naturel catastrophique et imprévisible, qui demeure un fait exonératoire, il faut prendre en considération l'organisation sociale, l'organisation de l'entreprise, l'organisation du service, de l'atelier, l'introduction et l'utilisation volontaire et consciente de nouvelles machines et de nouvelles technologies, la recherche de la rentabilité et du profit, tous éléments qui ne peuvent évidemment, bien au contraire, être imputés à faute, tous éléments qui ne constituent pas, bien évidemment, des fautes, mais qui néanmoins sont facteurs de risque et de dommages. Risques et dommages qu'il n'est plus possible de laisser à la charge des seules victimes. Aussi, et de manière somme toute assez paradoxale, en même temps qu'il demeure une cause d'exonération, le risque, du moins le risque dans sa composante humaine et sociale, devient justification de la responsabilité. La doctrine juridique va formaliser cette nouvelle approche assez simplement à travers les deux idées voisines mais néanmoins distinctes du risque créé et du risque profit. Selon la première, l'idée du risque créé, lorsqu'un risque est introduit dans la vie sociale, cela doit être au péril de celui qui en est l'initiateur ou le créateur, et non évidemment au péril d'autrui. Dès lors, toute activité dommageable, même non fautive, doit être génératrice d'une obligation de réparer. Selon la deuxième idée, l'idée du risque-profit, l'homme qui recueille les bénéfices de son activité doit, en contrepartie, en supporter les charges. La recherche d'une meilleure rentabilité, d'une plus grande productivité, d'un plus grand profit, par l'utilisation de machines nouvelles ou plus nombreuses, par la mise en place de technologies nouvelles et peut-être encore mal maîtrisées, par l'embauche de nouveaux salariés ou la mise au point de nouveaux process de production, tout cela justifie, fonde la naissance de nouvelles responsabilités. Cette mutation essentielle, dont on a oublié combien elle avait été essentielle, constitue un formidable progrès social. D'abord, parce qu'elle trouve l'une de ses plus grandes applications dans le domaine des accidents du travail, avec la loi de 1898. Le salarié blessé dans son travail n'est plus tenu de faire la preuve que son employeur a commis une faute. Vous imaginez ce que pouvait être la situation dans les années 1850-1860 d'un salarié qui, pour obtenir réparation, devait prouver que son employeur avait commis une faute. Le salarié est ici indemnisé sur le fondement du risque. cette solution est consacrée, après des débats considérables, dans la loi de 1898. Donc progrès social, déjà, qui se traduit dans ce domaine des accidents du travail. Mais progrès social aussi parce que cette nouvelle idée, cette nouvelle conception rompt, pour la première fois depuis bien longtemps, et au seul bénéfice des victimes, elle rompt le lien, et nous y voilà encore, le lien entre la responsabilité juridique et la culpabilité. L'homme est tenu de réparer le dommage, non pas parce qu'il a commis une faute que l'on viendrait lui reprocher, mais parce que sa situation, son activité, sont génératrices de risques dont certains se réalisent, entraînant des dommages. La victime, alors, n'est plus la fameuse élue du sort, elle n'est plus contrainte de demander ou d'attendre l'aide ou la charité, elle devient, et c'est une mutation essentielle, elle devient titulaire d'un droit à réparation. Ce formidable progrès social n'est évidemment possible que parce que se mettent en place et se développent des organisations complexes qui permettent tantôt de socialiser le risque en le diffusant sur l'ensemble de la société, tantôt de le collectiviser en le répartissant au moins entre les membres d'une collectivité donnée. Et les technologies qui sont mises en œuvre, technologies statistiques, financières, mais ce sont bien des technologies, traduisent, elles aussi, des approches différentes, sinon du risque lui-même, du moins de la manière de lui faire face et de le supporter. Tandis que certaines s'organisent autour des valeurs de la solidarité, en demandant à chacun de contribuer selon ses capacités, d'autres, les techniques de l'assurance, notamment, essentiellement, font du risque, de sa probabilité, de sa gravité mise en statistique, la clé de voûte du calcul de la participation de chacun. Comme on le sait, le débat entre ces deux approches n'est pas clos, c'est le moins que l'on puisse dire, et il est loin d'être secondaire. En témoignent notamment les discussions et les polémiques relatives à la couverture des risques, tels que les risques santé, les risques vieillesse ou les risques invalidité. Un point cependant uni toutes ces technologies du risque. Le risque qu'elles gèrent transforme son objet, quel qu'il soit, en équivalent monétaire. Et cela transforme la perception que l'on peut avoir du risque. Quoi qu'il en soit, l'avancée est telle par rapport à la période précédente qu'elle se nourrit de son propre succès et occupe bientôt tout l'espace. Tandis que se multiplient les régimes spéciaux de responsabilité fondés sur le risque, dans les domaines tels que la responsabilité pour les dommages causés par les hydrocarbures, ou dans le domaine de la responsabilité nucléaire, ou dans le domaine de la responsabilité des produits défectueux, bref. Tandis que se multiplient les régimes spéciaux de responsabilité fondés sur le risque et que se développent des mécanismes de prise en charge collective, car les deux sont intimement associés, des dommages qui leur sont liés, le risque coup du sort, le risque exonératoire de responsabilité, celui qui était le seul conçu dans un premier temps, ce risque voit son domaine se réduire comme une peau de chagrin. c'est qu'il n'est pratiquement plus d'événements, je dis pratiquement plus d'événements, qui, dans l'esprit des victimes potentielles, méritent vraiment le statut de la force majeure. L'imprévisible devient à peine imaginable, si j'ose dire. Il est en tout cas de moins en moins acceptable. Mais par là même, les repères de la responsabilité se perdent un peu. Et ceux qui ont trouvé dans cette soif de réparation un nouveau marché, car il s'agit de cela aussi, contribuent à entretenir et même à aggraver la confusion. Ainsi, le débat pourtant essentiel auquel je faisais allusion il y a un instant, sur la question de savoir sur quels principes doivent être fondées les technologies de la réparation des dommages, ce débat est escamoté. Dans la dernière période, dans la toute dernière période, c'était l'an dernier, je crois, s'installe même l'idée, se confirme l'idée en réalité, qui avait commencé à s'installer il y a déjà quelques années, se confirme l'idée que la technologie la plus efficace, finalement, est sans doute celle par laquelle ce sont les victimes elles-mêmes qui doivent couvrir par l'assurance directe les risques qu'elles encourent. Et les compagnies d'assurance lancent sur le marché la garantie pour les accidents de la vie. Assurez-vous vous-même contre les dommages ou contre les risques potentiels que vous pouvez encourir. La responsabilité perd ses références. Le droit de la responsabilité n'est plus ici concerné. Il devient peu à peu un droit du risque assurantiel, dont la logique de fonctionnement est totalement déconnectée des faits ou des situations qui ont donné naissance aux dommages que l'on entend réparer. Mais la responsabilité pénale elle-même est affectée par le mouvement. D'une part, apparaissent dans notre droit des infractions dites matérielles, c'est-à-dire n'exigeant pas la preuve d'un élément intentionnel, et cela au mépris des principes les mieux établis de la responsabilité pénale. Et il n'est pas certain que le nouveau code pénal ait réussi à renverser ce courant. D'autre part, et surtout, les victimes prises en charge de manière, j'allais dire, globalement satisfaisante sur le terrain de la réparation des dommages, au moins quant au résultat final, ces victimes prises en charge à peu près correctement sur le plan de la réparation éprouvent une sorte de frustration, et certaines grandes affaires l'ont bien montré, à ne plus identifier ceux qui sont à l'origine du dommage. Elle tente alors de compenser ce manque en engageant des poursuites pénales qu'elles veulent tout à la fois instructives au sens de l'instruction du juge d'instruction, qu'elles veulent instructives, pédagogiques pour elles-mêmes et parfois qu'elles veulent infamantes pour la personne poursuivie. Disposant peu ou prou du droit à réparation, elles cherchent à se voir reconnaître, je serais tenté de dire, un droit à l'explication et, si besoin est, un droit à la vengeance. Globalement, le système a donc du mal à trouver son équilibre, nourrissant ainsi les discours de ceux qui prônent un retour à ce qu'ils considèrent comme la clarté, c'est-à-dire un retour à la responsabilité classique pour faute, associée à une prise en charge assurantielle des dommages, presque totalement déconnectée des questions de responsabilité. Ne soyons responsables que pour faute, disent-ils, et laissons les mécanismes assurantiels prendre en charge les dommages qui ne relèvent plus de la faute. C'est dans ce contexte instable et un peu confus après le fantastique progrès réalisé que le concept de précaution fait irruption. Est-il de nature à ouvrir un nouveau chapitre de cette longue saga ? S'inscrit-il au contraire en rupture ? C'est ce qu'il nous faut maintenant envisager. Le droit du risque est-il seulement renouvelé ou est-il véritablement bousculé par la référence à la précaution ? La réponse est loin d'être évidente, je ne ferai qu'esquisser quelques pistes. Mais d'abord, d'où nous vient-il ce concept de précaution ? Je l'ai dit, il se formalise en droit international, même si certaines de ces traductions étaient déjà présentes dans l'ordre interne. Sa culture d'origine est à l'évidence anglo-saxonne. Si le droit anglais a placé le dommage, le tort, et la victime au cœur du dispositif, depuis de longues années déjà, il s'était infléchi en visant de plus en plus souvent et de plus en plus nettement la négligence et le responsable, c'est-à-dire le fait de celui qui allait être déclaré responsable. Le principe de précaution s'inscrit dans cette logique. Quoi que l'on en dise, quoi que l'on en ait dit, peut-être ici même, j'ai le sentiment que le principe de précaution réintroduit la culpabilité dans le droit des risques. Mais ce n'est pas celle qu'attendaient et qu'espéraient les chantres de la responsabilité pour faute ancienne manière. C'est une culpabilité totalement revisitée, une culpabilité de l'improbable, un retour de la morale, certes, mais d'une morale de l'incertitude. La faute n'est pas d'avoir agi ou de s'être abstenu d'agir. La faute est de n'avoir pas mis en place les procédures, les process qui permettaient de produire de la connaissance sur un risque potentiel mais non encore avéré. La faute de précaution est de ne pas avoir accompagné l'activité susceptible de faire naître des risques non connus, des dispositifs permettant précisément d'en déceler la potentialité bien avant de pouvoir les identifier. La faute, c'est de ne pas avoir procédé par paliers successifs pour anticiper l'éclosion du risque, pour le construire intellectuellement en même temps que l'on construit ou que l'on fabrique ou que l'on met en place l'activité ou le produit susceptible de le porter en germe. Alors que peut-on attendre de ce concept et de cette faute renouvelée ? À l'évidence, une renaissance de la responsabilité pour faute, mais d'une responsabilité pour faute considérablement élargie. Certains, dont je suis, ont pu craindre que par un effet quasi mécanique, la responsabilité objective, celle du risque créé, du risque profit, régresse et qu'au bout du compte, la réparation des dommages subis par les victimes soit moins facile, parce que moins automatique. On a répondu, Madame Vinet notamment, à ces craintes en faisant valoir que rien, pour l'heure, ne venait confirmer cette prophétie et que, bien au contraire, les mécanismes de réparation automatique s'étaient multipliés au cours des dernières années au cours de la dernière décennie. Ce constat est tout à fait exact. Il oublie seulement de souligner que ces mécanismes ne sont plus la plupart du temps des mécanismes de responsabilité et qu'ils font la part de plus en plus belle, comme j'ai essayé de le souligner, à la couverture de leurs propres risques par les victimes elles-mêmes. Et cette évolution me semble fortement inscrite dans les faits. Mais si l'obligation de réparation fondée sur la responsabilité régresse, comment expliquer alors la crainte qu'inspire le principe de précaution dans certaines sphères, la panique qu'inspire ce principe? Cette crainte est si vive que l'on a même essayé de démontrer, c'est François Ewald, que l'on a même essayé de démontrer que la précaution n'était qu'un concept de droit public qui n'intéressait pas notre débat et qui ne concernait que l'État. Rassurez-vous, bonnes gens, la précaution n'est qu'une politique qui contraint l'État. Et je cite, « qu'une grande machine à faire basculer le contrôle a posteriori par la responsabilité en contrôle a priori par l'administration. Qu'un risque se réalise et les actions pourront pleuvoir sur l'État qui n'a pas joué son rôle, mais elles épargneront ceux qui, dans cette conception, pourront être présentés comme des vecteurs passifs du risque, presque comme des victimes de l'insuffisante précaution de l'État. On voit bien le paysage idéal, idéal pour les tenants de cette thèse, dont vous aurez peut-être compris que je ne la suis pas. Le paysage idéal se dessine en trois volets. Des responsables qui ne peuvent l'être que pour une vraie faute, entendez pour une faute classique, d'avant le principe de précaution, d'avant le risque, une faute modèle 1804 non renouvelée. Des victimes potentielles appelées à couvrir leurs propres risques par le recours à l'assurance directe. Enfin, troisième volet, un État en charge de minimiser les coûts, les risques, en conduisant seul une politique de précaution. Et si, énonçant une réserve sur cette construction, on fait observer que les milieux concernés, les industriels, les professions de santé, les professionnels de l'agroalimentaire, se sont appropriés, avec effroi certes, mais se sont appropriés tout de même, le principe de précaution en le consignant dans leur charte, dans leur code de bonne conduite, dans leur campagne de communication, en le considérant comme faisant désormais partie des obligations qui pèsent sur eux. Si l'on fait observer cela, les mêmes répondront que ce ne peut être que par un effet de l'inconscience de ces milieux, inconscience nourrie par la malhonnêteté, le mot a été utilisé, par la malhonnêteté de ceux dont je suis, dont je me flatte d'être, qui ont prétendu que ce nouveau concept présentait toutes les caractéristiques d'un concept coutumier. Et oui, il y a déjà de la coutume dans le principe de précaution, la répétition de l'usage, le sentiment collectif qu'il impose des comportements qui pourront être sanctionnés. C'est cela qui fait la coutume. Comment expliquer cette tentative de limiter le principe de précaution à un principe politique n'engageant que l'État ? Comment expliquer l'énergie déployé à éviter que le principe de précaution devienne un principe de responsabilité. deux ou trois explications viennent à l'esprit qui toutes, vous le verrez, nous ramènent au débat central sur la responsabilité. La première est qu'en revivifiant le débat sur la responsabilité, le principe de précaution risquerait de contrecarrer l'évolution précédemment décrite et qui conduit précisément jour après jour à faire prendre en charge les dommages par ceux qui les subissent. Le principe de précaution, j'allais dire, remet la responsabilité à l'endroit. La deuxième idée est peut-être qu'en réconciliant la responsabilité et une culpabilité rénovée, revisitée par le principe de précaution, ce dernier principe rompt avec une logique de déresponsabilisation qui était à l'œuvre depuis 150 ans. Ce qui est peut-être redouté, ce qui explique peut-être cette panique, ce rejet du principe de précaution comme principe de responsabilité, c'est le jugement moral porté contre celui ou ceux qui, jusqu'ici, pouvaient se sentir responsables sans être coupables. Une troisième idée, peut-être, serait, qui explique cette crainte, serait qu'une telle évolution pourrait venir paralyser, pourrait venir inhiber toute innovation. Alors ces questions méritent que l'on s'y arrête et que l'on y réfléchisse. La crainte serait en effet fondée si la traduction du principe de précaution était celle qu'on en a parfois donnée en affirmant que dans le doute, il fallait s'abstenir. Mais tout le monde, allez, sauf certains politiques et certains médias, tout le monde s'accorde aujourd'hui pour écarter cette vision intégriste du principe de précaution. Répétons-le, le principe de précaution ne commande pas une solution. Il n'est pas porteur de ce que les juristes appellent une règle substantielle. Il impose seulement, mais c'est déjà beaucoup, une manière de faire, des procédures qui doivent accompagner les processus décisionnels, tant publics que privés, pour obliger à penser les risques incertains, à en formaliser les contours et à produire sans cesse de la connaissance sur leur survenance potentielle et sur leur gravité. Plutôt que de refuser cette nouvelle obligation de précaution, il nous paraît éminemment préférable d'en préciser les contours. La question fondamentale nous paraît être de rechercher quand et dans quelles conditions les décideurs publics ou privés sont soumis à l'obligation de précaution. Je me contenterai ici d'exposer une thèse dont je ne prétends évidemment pas qu'elle soit la seule possible, mais qui est soumise au débat. L'obligation de précaution naît, me semble-t-il, doit naître lorsqu'apparaît ce que j'ai choisi de nommer un doute légitime. Il y a doute légitime, au moins dans deux hypothèses. D'une part, lorsque des faits objectifs, c'est-à-dire scientifiquement établis, selon les procédures habituelles de la science, font naître des questions qui ne reçoivent de réponse que sous la forme d'hypothèses de risque. Ainsi, pour ne prendre qu'un exemple, l'observation que la courbe des encéphalopathies spongiformes bovines marque un plateau inexpliqué et en l'état de la science inexplicable, alors que le contrôle ces derniers jours, j'ose à peine en parler, que le contrôle de la fabrication et de la distribution des farines animales aurait dû conduire au fléchissement continu de cette courbe, cette observation, l'observation de ce plateau, fait naître un doute légitime sur la fiabilité des contrôles, et nous sommes dans l'actualité, mais aussi, et peut-être, sur l'éventualité d'autres modes de contamination que les deux modes identifiés jusqu'ici par la nourriture et de la mer aux veaux. Dans cette hypothèse, il y a doute légitime justifiant l'obligation de précaution. Mais il y a encore doute légitime, me semble-t-il, lorsque, d'autre part, des faits sociaux mesurables par des enquêtes d'opinion, par exemple, révèlent l'existence d'une perception sociale d'un risque. La tentation pourrait évidemment être grande, dans un souci de prétendue objectivité, de s'en tenir aux seuls faits objectifs dont je parlais à l'instant, mais ce serait oublier que ces faits sont objectifs, peut-être, mais sont le résultat d'une production sociale. Les gouvernements, les institutions scientifiques, publiques ou privées, ont choisi d'investir dans des recherches qui ont permis de valider tel fait et pas tel autre. Ce serait oublier que cette production sociale n'obéit pas nécessairement à une rationalité plus satisfaisante que les faits qualifiés de sociaux. Ce serait oublier enfin que l'existence d'une perception sociale du risque, fût-elle irrationnelle ou perçue comme telle, constitue un phénomène lui-même objectif que l'on ne peut négliger sous peine de graves conséquences. L'existence d'un doute légitime donc impose une obligation de précaution, c'est-à-dire la mise en place de procédés, de procédures d'expertise, de débat, de veille et de suivi. Mais il faut en revanche affirmer avec force qu'en deçà de ce seuil, en deçà du seuil du doute légitime, chose bien imprécise, me direz-vous, oui, la bonne foi, le bon père de famille sont des standards que les juristes utilisent depuis bien longtemps. Je ne vois pas dans le doute légitime plus d'imprécision que dans le bon père de famille. Donc, en deçà de ce seuil du doute légitime, il ne sera pas illégitime ni, soyons clairs, illégal d'agir en respectant seulement les procédures de prévention mises en place pour analyser et tenter de réduire ou d'éradiquer les risques connus. Il y a bien un seuil à l'obligation de précaution. Et ainsi considérée, l'obligation de précaution n'est pas aussi contradictoire à l'innovation qu'on a bien voulu l'écrire parfois. La littérature économique la plus récente rappelle que, malgré l'accélération du temps économique, il existe des périodes d'adaptation, d'apprentissage et de diffusion qui sont incompressibles et qui obligent à percevoir l'innovation non pas comme un processus qui fonctionnerait par bonds successifs, entrecoupés de paliers permettant de gérer l'innovation et de rentabiliser les investissements, mais comme un processus qui se développe dans le temps et dont l'agrégation au système économique est progressive. Alors si tel est bien le cas, si c'est bien ainsi qu'il faut voir l'innovation, non pas une progression par bond, mais un processus continu, si c'est tel est bien le cas, le principe de précaution, en donnant du temps au temps et en obligeant à produire de la connaissance sur le risque dans un contexte d'incertitude, devrait être regardé, contrairement à la présentation caricaturale qui en est souvent faite, comme un principe moderne d'accompagnement facilitant l'intégration de l'innovation en parfaite adéquation avec les besoins du système économique. On raconte qu'il y a fort longtemps des marins portugais cherchant au sud de l'Afrique un passage vers l'est, craignaient que les eaux deviennent bouillantes. Plus on descendait vers le sud. Certains disaient, dans le doute, il vaut mieux s'abstenir. D'autres disaient, non, nous allons aller vers le sud, mais nous mettrons un marin à l'avant du navire avec un thermomètre qui mesurera l'eau toutes les 2 heures. Et un marin à l'arrière du navire qui vérifiera que les vents ne rendent pas le voyage irréversible. Je ne sais pas si cette anecdote est historiquement vérifiée, ça m'étonnerait, mais en tout cas, elle montre que les marins portugais avaient déjà tout inventé. Je vous remercie.
Oui, je remercie le conférencier de cette brillante conférence. J'avais juste une toute petite, deux petites questions. Est-ce que la volonté en fait de circonscrire le principe de précaution à la responsabilité administrative ou étatique ou politique n'est-elle pas en fait le reflet de cette difficile application d'un principe de précaution à des gens sans moyens, sans ressources? En fait, l'idée est simple, c'est-à-dire que le principe de précaution n'est en fait applicable entièrement qu'à des gens qui peuvent se permettre le luxe d'être précautionneux. C'est bon, cette idée simple. Et deuxième peut-être idée, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas décliner ce principe de précaution selon qu'une obligation de moyens ou qu'une obligation de résultats est visée? Voilà.
Alors, allez-y.
Oui. Alors, je n'ai sans doute pas été assez clair sur un point, mais c'est pourtant un point auquel je tiens. Le principe de précaution ne me paraît pas devoir demeurer un principe de responsabilité seulement administrative et ne me paraît pas devoir être cantonné dans le seul domaine politique. Bien au contraire. J'ai bien insisté, et nous avons une petite discussion, une petite controverse avec François Ewald sur ce point, sur le fait que je ne partage pas du tout son point de vue. Pour moi, le principe de précaution est un principe de responsabilité qui concerne aussi bien les décideurs privés que les décideurs publics. Cela étant, je reprends ce que je disais un petit peu sur la fin de mon propos. Il ne faut pas mettre le principe de précaution à toutes les sauces et considérer qu'il n'y a pas de seuil que tout le monde, dans toutes les circonstances et dans toutes les circonstances de la vie, est soumis à une obligation de précaution. Si l'on entend ainsi le principe de précaution, alors on le dilue tellement qu'il n'a plus de signification et on rejoint, la vieille obligation de prudence et de diligence du code civil. Non, l'obligation de précaution, si elle a un sens spécifique, est une obligation qui ne s'impose qu'au-delà d'un certain seuil, que dans certaines circonstances, celles, je l'ai dit, où il y a doute légitime, et me semble-t-il, elle ne concerne que ceux qui ont le pouvoir de décision dans cette situation d'incertitude et de doute légitime. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais éventuellement, vous la préciserez. Question, comment articuler le principe de précaution et la distinction entre les obligations de moyens et les obligations de résultats? C'est une question qui appellerait un long développement, parce que, me semble-t-il, elle ne peut pas être posée en ces termes si l'on a bien conscience que l'obligation, le principe de précaution ne donne pas de solution substantielle. Il ne dit pas « il faut agir, il ne faut pas agir ». Le principe de précaution impose de suivre des procédures. C'est un principe de procédure, c'est un principe de méthodologie, ce n'est pas un principe de fond. Et alors je serais tenté de dire qu'il impose une obligation de résultat quant au respect de ces procédures, quant au respect de ces obligations de veille, de suivi, quant au respect de ces obligations d'expertise, quant au respect de ces obligations, peut-être de moratoire parfois, mais il n'impose évidemment pas d'obligation de résultat quant au résultat que ces procédures donneront à l'issue de leur tenue. Voilà, j'espère avoir été clair.
Monsieur, il y a beaucoup de questions. Essayez d'être assez rapide dans les questions.
Oui, j'en ai retenu même deux à poser. La première, courte, le principe de précaution est-il vraiment un principe ? Deuxième question, c'est un excès ça part d'un exemple qui est celui du retour d'expérience en aéronautique. Vous savez que pour prévenir les accidents, on analyse donc tous les accidents passés et aussi tous les incidents, parce que les accidents sont malheureusement, fort heureusement, assez peu nombreux. La constitution d'une telle base de données comprend à peu près 50 000 événements. Après coup, lors d'un accident ultérieur, on pourra toujours trouver dans cette base de données deux ou trois incidents dont la combinaison pourra expliquer l'accident futur. Alors à ce moment-là, il sera toujours possible de dire qu'il y a un responsable quelque part qui n'a pas fait son travail et qui n'a pas permis finalement d'anticiper l'accident en question. Alors ça pose un problème que vous avez donc évoqué, c'est quand vous avez dit seuil, oui, mais quand, quelle valeur donner au seuil ? Ça entraîne immédiatement derrière une autre question, et je m'arrêterai là, je vous rassure. Dans les organisations relativement complexes qui sont les nôtres maintenant, le pouvoir de décision est réparti entre un certain nombre de personnes, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment pouvoir identifier donc celui-ci, quand justement vous venez d'en parler, vous venez de dire qui, celui qui avait le pouvoir de décision, mais qui a le pouvoir de décision ? Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ces longues questions.
Oui, alors je vais essayer moi aussi de répondre rapidement, mais c'est difficile. Sur la première question, d'abord, je voudrais dire que la technique qui consiste à collationner un ensemble d'accidents passés ou d'incidents survenus relève davantage de la logique de la prévention que de la logique de la précaution. La logique de la prévention, qui repose précisément sur des risques connus ou avérés ou probabilisables, tandis que la logique de précaution repose sur des risques incertains. Cela étant, votre question n'en est que plus pertinente encore, j'allais dire, puisque si l'on peut déjà, à partir d'une logique de prévention, trouver dans tous les cas, comme vous l'avez dit, un responsable, ce sera encore plus facile, peut-être, avec une logique de précaution. Mais je crois que ce qui est l'obligation de précaution qui peut fonder la responsabilité, ce n'est pas qu'il y ait eu tel ou tel élément qui aurait pu alerter. Ce qui devrait fonder, en tout cas dans la conception que j'en ai, la responsabilité pour une faute de précaution, c'est le fait de ne pas avoir mis en place les procédures qui, dans le processus de décision, auraient permis de faire le rapprochement, peut-être, entre deux ou trois incidents, et qui auraient peut-être permis d'éviter que l'accident se produise. C'est, encore une fois, dans le processus décisionnel et dans son organisation, dans l'organisation de l'entreprise, pour aller vite, que peut se situer la faute. C'est la faute de c'est une faute d'organisation, c'est une faute de méthodologie. Quant à la deuxième question, elle est essentielle. Bien sûr, mais il fallait que je tienne dans le schéma qui m'avait été demandé, compatible avec la télévision. Nous sommes tous un peu vaniteux. Et je n'ai pas... J'ai parlé de celui qui avait le pouvoir de décision comme si c'était le chef au plus haut de l'organigramme, qui, bien sûr qu'il n'en est pas ainsi. Et aujourd'hui se développe toute une série de thèses. Je pense notamment aux théories de Teubner en Allemagne, sur l'idée que la responsabilité ne peut peser que sur l'organisation elle-même, et c'est à l'organisation, par des procédures internes, de la diffuser en elle. Teubner prend un exemple qu'on peut trouver mal choisi. Il prend l'exemple de la mafia disant en réalité cette organisation est si complexe et finalement si mal connue qu'il faudrait faire peser la responsabilité sur la coupole mafieuse et puis libre à elle de diffuser en son sein, si je puis dire, cette responsabilité. Alors, je ne suis pas sûr, encore une fois, que le parallèle avec la mafia soit très bien adapté, mais en tout cas, dans le cadre des organisations complexes qui sont les nôtres, il y a là, je ne dis pas une solution trouvée, mais il y a là un chemin qui mérite d'être exploré.
Madame.
Monsieur, je vous remercie beaucoup, et en particulier de votre phrase que les hommes, au fond, à travers le droit, essaient de se confronter à leur fragilité. La question de cette fragilité est une question de base de société qui risque d'aboutir à des dérives graves, à savoir c'est que notre manque à être est déplacé sur l'autre comme fautif. Et je pense que dans l'obligation de résultat, par exemple, les juges jugent en leur âme et inconscient aussi, non pas inconscience mais inconscient, et il y a une jurisprudence du doyen Sargos l'année dernière qui a donné une obligation de résultat dans les maladies nosocomiales qui est en dehors où il juge au sens classique du terme que toutes les maladies nosocomiales sont attribuables à un défaut d'asepsie, ce qui montre évidemment son fantasme aussi de toute puissance médicale qu'il reproche aux médecins et qu'il leur impose. Et ça, trouver le manque à être, déplacer le manque à être sur un autre, c'est quand même la base d'une société qui historiquement a été plus que déviante. Et pour répondre aussi à ça, cette semaine, le gouvernement a renforcé la sécurité transfusionnelle contre l'avis des experts dans l'hépatite C, ce qui veut dire que dans l'état actuel des prix des tests, pour diminuer le risque d'une contamination par hépatite C, on va dépenser 280 millions de francs, ce qui ne va pas être attribué parce qu'on dépiste avant la fabrication des anticorps, et ce qui parallèlement ne va pas permettre ou va être en tout cas pas investi cet argent pour justement dépister les personnes déjà atteintes et pouvoir les soigner. C'est-à-dire que dans ce risque de fantasme de risque zéro dans la transfusion, qui est un fantasme, il y a quelque chose qui, dans notre société en France, risque, et c'est explicite et c'est existant à l'heure actuelle, de permettre qu'on ne soigne pas 200 000 personnes pour en protéger une.
Merci. Donc on va demander...
Oui, en un mot, je crois que votre réflexion, car c'est plus une réflexion qu'une question, pose précisément le problème des procédures de décision, de la mise en place de débats, de la mise en place de ce que François Ewald appelle, et là je le suis parfaitement, la démocratie du risque. Une démocratie du risque, simplement, là où je ne le suis pas, c'est qu'à mon avis, cette démocratie du risque, elle doit être présente dans toutes les organisations, tant privées que publiques, et elle ne relève pas seulement du secteur politique. Mais je pense que je n'ai pas à répondre à ce que vous avez dit, c'était plutôt une réflexion qu'une question.
Monsieur.
Allez-y. Oui, je voulais dire à Gilles Martin ce que Hubert Curien, ancien ministre de la Recherche et vice-président de l'Académie des sciences, le rejoint à 100%. Je l'ai entendu dire au Congrès mondial du gaz à Nice en juin, textuellement, le principe de précaution doit être une règle d'action. Point. Cette règle d'action doit s'appuyer sur un ensemble de procédures délibérées et expliquées. Ces deux adjectifs sont extrêmement importants. Délibérées parce que elles sont reconnues comme valables et expliquées, il faut que tout le monde comprenne leur sens. Donc ça, c'est clair. C'est le point de vue donc d'Hubert Curien qui vous rejoint plutôt que François Eval, je dirais, puisque vous-même, vous avez dit que vous n'étiez pas tout à fait dans le sens de François Eval. Deuxième chose, c'est une expérience personnelle. Je suis en train moi-même de dialoguer à assez haut niveau avec des représentants de l'État, un arguant du principe de précaution, sur un projet de 12 milliards de francs. Et j'ai constaté il y a à peine un mois que les représentants avaient progressé. Et je rejoins la conclusion de votre discours, dans le sens où, en jouant bien avec le principe de précaution, par l'effet transversal qu'il a, finalement, il pousse à l'innovation, dans le sens où les hauts responsables de l'État ont ouvert les yeux, davantage les yeux, sur ce qui se faisait ailleurs, dans le monde industriel moderne. Il s'agit d'études de danger et de sûreté. Et en particulier dans le monde anglo-saxon, qui, est, il faut le dire, est très souvent plus organisé, plus méthodique ou méthodologique que le nôtre. C'est clair. Et je voudrais conclure sur le tunnel du Mont-Blanc. Vous avez parlé de méthodologie. Je dirais pour moi que c'est le néant organisationnel qui a conduit au désastre. Ce n'est pas le camion de margarine. Pas d'organisation, pas de méthode et de procédure. Pas de méthode et de procédure, donc des règles. Donc des règles orphelines, puisque personne ne les comprenait. Elles n'étaient pas expliquées, comme le dit Hubert Curien. Donc les règles étaient abandonnées. D'où le néant organisationnel, d'où la catastrophe. Il y a donc une sorte de hiérarchie très nette, organisation, méthode, règles, qui finalement est assez mal comprise dans nombre de secteurs. Voilà, je m'arrête là.
Un peu de commentaires. Je suis très flatté d'avoir la même idée du Hubert Curien. Mais surtout, je voudrais dire que cette idée selon laquelle le principe de précaution est une règle d'action délibérée et expliquée se retrouve en termes explicite dans le rapport au Premier ministre de Mme Vinet et M. Kourilski sur le principe de précaution. Je crois que plus personne aujourd'hui ne prétend que le principe de précaution serait un principe d'abstention, en tout cas d'abstention définitive et passive. Si abstention il peut y avoir, c'est dans le cadre d'un moratoire pour produire de la connaissance sur un risque incertain. Quant au second aspect, nous avons sans doute trop, et je dis nous, les juristes français, ont sans doute trop eu une culture de la règle substantielle et une culture insuffisante de la règle procédurale, de la procédure. Or, aujourd'hui aussi, il y a une évolution assez nette dans les esprits qui mettent de plus en plus au premier plan les règles de procédure avant les règles de fond.
On va prendre deux dernières questions, madame et madame.
Allez-y, oui. J'ai une toute petite question. De quand datez-vous l'introduction dans notre conscience en France du principe de précaution ? Moi, je croyais que c'était la conférence de Rio. Mais vous avez l'air de penser que le droit anglo-saxon a pu le créer bien avant et que peut-être il a pénétré chez nous de manière plus subtile que je ne le pensais.
Alors,
merci.
Très, très simplement, les auteurs se divisent sur l'acte de naissance du principe de précaution. Certains le font remonter à 72, conférence de Stockholm. D'autres le font apparaître dans les années 80, 82. Et je partagerai plutôt ce point de vue. C'est dans les années 80 que dans toute une série de conventions, de communications internationales. On voit apparaître le concept, alors formellement, le concept de précaution dans sa forme anglaise, precautionary principle. Et c'est ensuite, évidemment, à Rio qu'il acquiert une stature universelle. Et pour la France, c'est dans la loi dite Barnier du 2 février 1995 qu'il est affirmé pour la première fois, puisqu'il s'agit d'un principe de droit positif.
Dernière question, madame.
Monsieur, est-ce que vous pourriez nous parler des chartes de qualité qui ont cours dans les services publics et dans toutes les entreprises commerciales ?
C'est la 297e conférence qui commence. Non, non, malheureusement, madame, je ne peux pas vous en parler de manière utile et pertinente. Le seul lien avec ce que j'ai pu dire, c'est que aujourd'hui, dans ces chartes de qualité, comme dans un certain nombre d'autres documents, on trouve affirmé, et ça j'y insiste beaucoup, on trouve affirmé le principe de précaution ou l'obligation de précaution. Et pour cela témoigne, à mon sens, de l'appropriation par le corps social de ce principe et de cette obligation. Quand l'on me dit, mais pas du tout, ça ne concerne pas les justiciables, ça ne concerne que l'État, ce n'est qu'une politique, je dis que c'est faux, car les intéressés, les milieux professionnels notamment, se sont appropriés ce principe avec, en tremblant, en considérant que c'était une chose terrible qui leur arrivait éventuellement, mais en n'émettant pas le moindre doute sur le fait qu'il s'agissait d'une règle de procédure, d'un principe méthodologique de droit positif qui s'impose à eux. Et sur ce point, il n'y a pas d'exemple que l'on revienne sur un tel acquis. Mais je ne peux pas vous parler en détail des chartes de qualité. Pardonnez-moi.
Gilles Martin, merci.